Page 34, Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh et Semidot, à Torah, Nidreshet. Donc, à partir de Ezeu Mekoman, en fait, à partir des Ketoret, on a une série de trois choses très importantes à dire avant la Tfila. Même si on n'a pas le temps de dire ce qu'il y a avant, ces trois choses-là, c'est particulièrement important de prendre le temps et de les dire avant la Tfila. On a d'abord les Ketoret. Ça, on a déjà expliqué l'importance des Ketoret, comment ça a enlevé beaucoup de décrets, etc. Sur les Ketoret, il nous reste encore à expliquer la traduction et l'explication des différents ingrédients des Ketoret, ça on le fera par la suite de Zrat Hashem. On a déjà fait la majeure partie du Ezeu Mekoman. Du Ezeu Mekoman dans lequel on expliquait où on offrait les sacrifices. Alors on n'a pas fait tous les sacrifices, mais bon, après vous pourrez le voir par vous-même. Après c'est quelques détails qui changent, d'accord? C'est quelques détails qui changent dans la procédure de l'offrande, mais de manière générale, le concept on l'a déjà étudié. Et maintenant on va étudier la troisième Mishnah qui est la Mishnah de Rabbi Ishmael. Pourquoi ces trois choses sont particulièrement importantes? Puisqu'on dit que celui qui fait ces trois choses-là, et surtout le Ezeu Mekoman et Rabbi Ishmael, c'est considéré comme si qu'il a déjà étudié la Torah dans la journée. Parce que celui qui, ça arrive une journée Chazé Shalom où il n'a pas étudié la Torah, il y a des mots très durs qui sont écrits sur ça. Donc c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'une des raisons pour laquelle on a instauré ces textes, même avant même la Tfila, c'est pour s'assurer qu'on les rate pas et qu'au cas où on n'aurait pas le temps d'étudier, c'est une des raisons bien sûr. Au cas où on n'aurait pas le temps d'étudier, ça soit considéré comme une étude pour la journée. Bien sûr, on n'a pas choisi n'importe quelle étude, on a choisi une étude qui a un rapport avec la Tfila. Donc, les Ketoret, on a compris le rapport qu'elles ont avec la Tfila. Ezeu Mekoman, on a compris le rapport que ça a avec la Tfila, puisque dans l'Ezeu Mekoman, on parle des sacrifices. Donc, les sacrifices qui sont remplacés aujourd'hui par la Tfila. Les Ketoret également, elles étaient faites le matin et l'après-midi. Et là, on va rentrer dans la Mishnah de Rabbi Ishmael. C'est une Mishnah qui est très importante, puisque c'est une Mishnah qui va nous donner 13 bases avec lesquelles on peut étudier la Torah. D'accord? C'est une Mishnah qui est très importante. C'est une Mishnah qui est elle-même à la base de la Mishnah, déjà.
C'est les clés.
D'accord? C'est les clés. Donc, les Chachamim ont choisi ce chapitre, dans le Sifra. Tant qu'à faire pour étudier la Torah, donc ils ont choisi ça. Et ça, c'est considéré comme la Gemara. Parce que les Ketoret, c'est considéré comme le Chumash. Ezeu Mekoman, c'est un pérec de Mishnah. Et Rabbi Ishmael Omer, c'est considéré comme l'étude de la Gemara. C'est comme si on étudiait la Gemara quand on étudie cette Mishnah de Rabbi Ishmael. Puisque c'est ça même la base de la manière de réfléchir dans la Mishnah et surtout dans la Gemara. On va passer c'est une Braïta. C'est une Braïta qui est dans le Sifra. Torah de Kohanim. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit, Bishlosh et Sremidot, à Torah Nidreshet. La Torah peut être étudiée par 13 méthodes. Page 34. 13 méthodes. Donc ces 13 méthodes, ça veut dire que la Torah, c'est pas simplement comme un livre qui se...
Corrélez ce que vous dites, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Corrélez ce que vous dites.
Ah oui, très bien ça. Ah, ils ont fait maintenant une page ici avec un petit... Très bien.
Un condensé journalier nécessaire. Et non suffisant.
Minimum.
Mais c'est ce que vous dites, non?
Ah, bien sûr. Alors, Razak, donc 13 méthodes. Alors, ça veut dire quoi 13 méthodes? 13 méthodes, ça veut dire que la Torah ne doit pas simplement s'étudier comme un livre, que je lis, je comprends, et c'est fini, j'ai compris, c'est bon. Non, ça marche pas comme ça. Il y a des méthodes comment étudier la Torah, et vous allez voir que des fois, avec ces méthodes-là, on va te demander de comprendre le contraire de ce qui est écrit. Ça, c'est un des grands problèmes quand on étudie la Torah, une des grandes difficultés qu'on a. Donc première méthode, la méthode la plus classique, c'est Mikal Vachomer. C'est la logique du Kal Vachomer. Kal Vachomer, ça veut dire a fortiori. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, on dit que lorsque le père de Myriam, Moshe Rabbeinu, enfin peu importe les avis, n'était pas content d'elle, c'est écrit que lorsque Myriam, quelque part, elle a été repoussée par sa famille, alors on lui a demandé de s'enfermer chez elle à la maison pendant 7 jours. Ça s'est raconté. D'accord? Ça s'est raconté comme ça dans le Parasha Korar, je crois, je ne sais plus quel Parasha c'était. Donc c'est raconté qu'on a demandé à Myriam de s'enfermer pendant 7 jours. Alors, qui lui a demandé? Peu importe ce qu'il a demandé. Est-ce que c'est Dieu qui lui a demandé? Est-ce que c'est sa famille qui lui a demandé? C'était suite au Lashon Hara qu'elle avait fait. Bon. Elle s'est enfermée 7 jours. Et de là, la Gemara apprend le Kal Vachomer suivant. Elle dit, si déjà, quand un homme a mis quelqu'un en quarantaine, il doit s'enfermer chez lui à la maison 7 jours, À plus forte raison, quand c'est la Shrina qui met une personne en quarantaine, par exemple, quelqu'un qui a manqué de respect à Kadosh Baruch Hu, et que les Rachamim ont décidé que cette personne-là, on doit le mettre en quarantaine, mais c'est pour Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison qu'il doit rester enfermé chez lui à la maison pendant 7 jours. C'est pas écrit dans la Torah. C'est jamais écrit que celui qui est en nidouille, celui qui est mis en quarantaine, doit rester 7 jours chez lui. C'est pas écrit. Mais c'est à plus forte raison. Si déjà quand un homme il met en quarantaine, on a vu qu'on a demandé qu'il reste 7 jours à la maison, à plus forte raison, quand c'est la Shrina qui met en quarantaine une personne. Ça, c'est un exemple de Kalvachomer. Des Kalvachomer, on en a des centaines dans la Gemara. A fortiori. Vous comprenez que quand on utilise cette logique-là, on peut aller très très loin. Parce que tu prends pas seulement ce qui est écrit, tu peux aller chercher un autre cas, a fortiori, et l'apprendre. Donc, on peut aller très très loin avec les Kalvachomer. Ça, c'est la première méthode qu'on peut utiliser pour étudier la Torah. Deuxième méthode qu'on peut utiliser pour étudier la Torah, c'est quoi? C'est Xera Shava. C'est quoi Xera Shava? Xera Shava, ça veut dire un point commun. Alors, je donne un exemple. Ça veut dire qu'on va retrouver le même mot qui est écrit dans deux sujets complètement différents. Alors, il faut qu'ils aient quand même un certain rapport. Mais bon, ça, je rentre pas dedans. Mais c'est deux sujets qui sont différents. Et on va dire, puisque ces deux sujets ont le même mot, partagent un mot, donc, on va dire, ça veut dire qu'elles vont partager aussi la même halakha. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le sacrifice du Tamid, le sacrifice qu'on offrait tous les jours, donc un le matin à l'après-midi, c'est écrit Bemoado. C'est écrit qu'on devrait faire le sacrifice Bemoado, ça veut dire, c'est quoi Bemoado?
Dans son temps.
Ça veut dire en son temps. Dans le Corban Pessah, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit également Bemoado, en son temps. Maintenant, c'est deux sacrifices qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors, il y a un rapport quand même, puisque on est dans les sacrifices. Mais c'est deux sacrifices qui n'ont rien à voir. Un, c'est Pessah, l'autre, c'est le sacrifice tous les jours. On va faire une Xerach avant, on va dire, puisque dans les deux sacrifices, on retrouve le mot Bemoado en son temps. Donc on dit comme ça, de la même manière que dans le Korban Tamid, le sacrifice journalier, on a un verset clairement qui nous fait comprendre que le sacrifice journalier repousse le Shabbat. Ça veut dire que quand, même le Shabbat, on devait offrir ce sacrifice. C'est-à-dire que normalement, on n'a pas le droit de faire couler du sang au Shabbat, on n'a pas le droit de faire la Shrita. Donc de la même manière, si Pessah, la veille de Pessah tombe en Shabbat, on aura le droit de faire la shrita. D'où tu sais? C'est pas écrit. Je sais parce que j'ai fait Xera Shava Bemoado. D'accord? Vous avez compris le principe Xera Shava? C'est-à-dire qu'il y a le même mot dans deux endroits différents, bien que ça n'a rien à voir. Et tu me dis, mais qu'est alors? Pas parce que c'est écrit en son temps dans les deux, tu vas pas commencer à prendre chaque mot. Alors oui. D'accord? Ça marche comme ça. Ça marche comme ça que puisqu'on retrouve le même mot, c'est une des méthodes avec laquelle on divise la Torah, puisqu'on retrouve le même mot, donc les halachot de l'un peuvent s'appliquer à l'autre. Il y a quand même une restriction à ça, parce que sinon on peut aller très très loin. Il y a une restriction à ça, c'est qu'on dit que les Chachamim ont reçu un nombre précis de Xera Shava. Ça veut dire que depuis Moshe Rabbeinu, on a reçu un nombre précis de Xera Shava qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il y a un nombre précis, on sait combien de fois on peut utiliser ce crédit.
Et pourtant on peut l'utiliser des milliers de fois.
Voilà, il y a un nombre précis. C'est pour ça que dans la Gemara, des fois on pose une question, il y a quelqu'un qui dit « D'où tu sais ça ?» Il dit « Oui, je fais une Xera Shava entre tel mot et tel mot. » Il me dit « Mais attends, c'est pris, il dit non mais moi je tiens pas de celui-là. Et chaque fois il faut qu'il en enlève un, sinon ça pose problème. Il dit oui mais si tu enlèves celui-là, alors comment tu vas d'où tu vas prendre ce cas? Il dit non je l'apprends d'ici. Et comme ça après on peut aller des pages et des pages dans la Gemara parce que de fil en aiguille, chaque fois tu dis non j'enlève celui-là, mais si tu enlèves celui-là, d'où tu vas prendre ça? Ah tu dois apprendre d'ailleurs, alors qu'est-ce que tu fais avec ailleurs? Oui. On peut aller très très loin dans la Gemara. Ça c'est deux grands grands classiques de la Gemara, ce qu'on vient de dire ici. Kal vachomer, Xera Shava. Donc a fortiori, et un mot commun qu'on retrouve dans deux versets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'accord? Qui n'ont pratiquement rien à voir. Puisqu'il y a un mot commun, donc les halakhot de l'un vont s'appliquer chez l'autre.
Corrélation.
D'accord? L'un ou l'autre qui fait un peu superflu dans le texte, qui est un peu lourd, enfin, qui rajoute.
Qui pas, peut?
Il ne rajoute rien. Enfin, il ne sait pas si les mots sont nécessaires pour la compréhension de la phrase. On ne peut pas faire comme ça avec Zerachava. Il faut qu'il y ait une sorte de lourdeur dans la phrase et on dit ce mot-là.
Il faut que dans l'endroit duquel on apprend, la Torah a dit explicitement. Par exemple, là, dans Bemoa 2, la Torah a fait comprendre clairement que si c'était un Shabbat, ça repousse. D'accord? Là-bas, c'est Bemoa 2, là-bas, la Gemara, elle apprend, elle dit Bemoa 2, ça veut dire Afilou Beshabbat, toujours. D'accord? Même Kippour, Shabbat, toujours, on fait le Korban Tamid. Alors, de là, on va apprendre, du Korban Tamid, on va apprendre pour les autres sacrifices. Comment? Le mot Bemoa 2. Ça, c'est la deuxième méthode. Ça, c'est des grands, grands classiques de la Gemara. Si on connaît pas ces principes-là, on peut même pas toucher une Gemara. Ensuite, on a une troisième méthode. Troisième méthode pour étudier la Torah. Alors, des fois, on peut utiliser plusieurs méthodes en même temps. Attention, hein, ça complique encore plus les choses. Alors, mi binyan av mi ketuv echad ou mi binyan av mi shnei ketuvim. ça veut dire quoi? Binyan Av, on va traduire en français. Binyan, c'est quoi? Ça veut dire quoi Binyan en hébreu? Construction. Et Av, c'est un père. Construction du père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un din qui est écrit dans la Torah dans un endroit peut servir de modèle pour d'autres endroits. D'accord? C'est comme un père qui va avoir des enfants. D'accord? On peut avoir également deux versets ensemble qui vont nous apprendre quelque chose, les deux ensemble vont nous apprendre une chose. Alors, on va donner un exemple. D'accord? On va donner un exemple. Par exemple, la Torah, pendant la fête de Pessah, a permis de préparer à manger. Normalement, au Shabbat, on n'a pas le droit de préparer à manger. Tout ce qui est préparation à manger, la Torah l'a permis, la Torah n'a pas dit pour Yom Tov, la Torah a dit pour Pessah. Mlechet Ochel Nefesh, tout ce qui est un travail pour préparer à manger, la Torah l'a permis pendant Pessah. D'accord? Mais la Torah l'a dit que pour Pessah.
Yom Tov.
D'accord? Ah, elle n'a pas dit Yom Tov.
En général.
La Torah a dit Pessah. Le verset qui en parle, il parle en Pessah. Il ne parle pas de Yom Tov. Seulement quoi? On dit, étant donné que Pessah fait partie des Yom Tov, donc on va faire ce qu'on appelle un Binyan Av. Donc on va dire qu'en vérité, si la Torah a choisi Pessah, c'est en tant que modèle pour les autres Yom Tov. Et de la même manière, dans les autres Yom Tov, on aura le droit de transgresser le Yom Tov, Kaviyachol, pour préparer à manger.
Allumer d'un autre feu, etc.
Ouais, etc. Préparer à manger. Même faire la shrita s'il faut. D'où on apprend de Pessah. D'accord? Oui. Mais il y a d'autres problèmes. Dans les faits, on le fait pas. On le peut le faire, ouais.
Mais justement, le Hérou Kachim qu'on va faire normalement avant
le
top, il y a un os, c'est quelque chose de...
Un rooftop shilin, c'est une xéra de Khamim. On n'y arrive pas, ça n'a rien à voir, non. Ça, c'est une xéra de Khamim. Une xéra que les Khamim avaient fait à l'époque, d'accord, pour pas que les gens repoussent... Enfin bon, peu importe le... C'est pour pas que les gens repoussent la préparation de Yom Tov à la dernière minute. D'accord. Quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir avec ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Binyan Av. D'accord. Binyan Av, ça veut dire que... Donc, Mikatu Vechat, ça je donne un exemple maintenant de Mikatu Vechat, c'est-à-dire qu'il y a un verset, enfin un Pessah, le verset de Pessah qui t'a dit, qu'est-ce qu'il a dit le verset pour Pessah? Il a dit, tu peux transgresser Pessah, enfin, si on peut dire, pour manger. C'est-à-dire que tu as le droit de cuire, etc., préparer à manger. Donc, de ce verset-là, de un verset, ce verset a été un père qui a donné des enfants, de ce verset, on a appris pour les autres Yom Tov, qu'on a le droit pour les autres Yom Tov. Non, pas Xara Shava. Non, parce qu'il n'y a pas le même mot. Et on n'a pas trouvé le même mot dans Pessah et les autres Yom Tov.
D'accord.
D'accord? Si vous voulez, c'est Xara Shava dans la logique, en théorie.
Dans la logique. Très bien. D'accord.
Maintenant, Mividen Av Mishnek Tuvim. D'accord? C'est quoi Mividen Av Mishnek Tuvim? C'est-à-dire que des fois, pour faire un modèle, on a besoin de deux versets. Alors, exemple. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Par exemple, dans la Parasha Mishpatim, la Torah nous dit que celui qui est en dommage avec un taureau, quelqu'un qui est en dommage, voilà, on a appris dans Baba Kama, celui qui est en dommage avec son taureau, il a l'obligation de payer. D'accord? Ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas que la Torah nous dit, c'est que celui qui est en dommage avec son puits, par exemple, il creuse un trou et il y a quelqu'un qui tombe dedans, et il est chayav également, il doit également payer. On est d'accord? Alors, écoutez bien, de là la Gemara Baba Kama apprend, tout début de la Gemara Baba Kama, elle dit que puisque la Torah a cité deux cas différents, si la Torah avait cité uniquement le cas du taureau, j'aurais pu penser que c'est uniquement si c'est un taureau qui est en corne que je dois payer. Mais si c'est un autre dommage, je ne paye pas. Mais puisque la Torah a cité deux cas différents, ça veut dire que ça peut être 1000 cas. Donc avec ces deux cas-là, on a créé un modèle. C'est quoi le modèle? Le modèle qu'on a créé aussi la Gemara Baba Kama, c'est que chaque fois que tu es endommagé, tu devras rembourser. Pourquoi on a choisi particulièrement le taureau et le puits? Ça, la Gemara, elle explique, là-bas. D'accord? Peu importe pourquoi, la Gemara explique que le taureau et le puits ont chacun des caractéristiques particulières. D'accord? La caractéristique particulière qui est dans le taureau, c'est que le taureau, il y a une autre force qui est mêlée à ça. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai frappé, c'est le taureau. Alors que dans le trou, d'accord? C'est quelque chose qu'on peut se protéger et que la personne peut voir de loin. Enfin, bon, la Gemara explique là-bas pourquoi on a besoin de ces deux cas. Quoi qu'il en soit, là, on a un exemple. D'un modèle qui a été créé avec deux cas. Si on avait dit uniquement le cas du taureau, on se dit, ah, c'est que si le taureau est en dommage. Sinon, je paye pas. Ou je paye peut-être pas à 100%. Puisque la Torah a dit deux cas, donc on a créé un binyan av, d'accord? Donc on a dit, bon, bah, ces deux cas-là forment ensemble un modèle qui est, dès qu'on est en dommage, faire un peu que ce soit moi qui est endommagé parce que j'ai pas protégé mes biens, comme le trou, ou bien que ce soit mon taureau qui est endommagé, ça veut dire c'est mes biens qui est endommagé, je suis toujours chayav de rembourser. On a créé un modèle.
On
a créé un modèle en
fait. Quand on parle de Pessah,
parle que de Pessah. Donc on peut penser que c'est que pour Pessah.
Non, de Pessah, on a fait un Binyan Av pour tous les autres Yom Tov.
Pourquoi on n'a pas dit Yom Tov ?
Quoi ? Ah, c'est comme ça.
Mais le problème, c'est que là, on fait un Binyan. Non, dans le deuxième cas, on fait un Binyan Av.
Mais des questions comme ça, on peut en poser des milliers. D'accord ? Akadosh Baruch Hu a fait exprès de faire la Torah.
C'est très très concentré, hein.
Non, c'est pas seulement concentré. Non, il a raison, des fois,
on a l'impression qu'il répète 10 fois.
Non, des fois, il te rajoute un mot, ça embrouille.
Ouais.
D'accord ? C'est fait exprès. Akadosh Baruch Hu, il fait exprès, on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est écrit que Rabbi Eliezer dit dans le Midrash, c'est dit que Akadosh Baruch Hu a fait ça exprès pour nous montrer que pour comprendre la Torah, on peut pas comprendre la Torah comme ça, on est obligé de passer par la Torah orale. Parce que si tu prends la Torah comme ça, tu comprends pas. Eh ben, Rabbi Eliezer dans le Midrash dit la chose suivante. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde d'une manière que le mal vient toujours du nord. Le mal vient du nord. Enfin, c'est pas que j'aime pas les Belges, mais le mal vient toujours du nord. Alors, comme Akadosh Baruch Hu dit, si quelqu'un est en train de dire, oui, qui a créé le monde, c'est pas Dieu qui a créé le monde, tu dis, y a pas de problème. C'est quoi? Voilà, j'ai laissé le monde, il est pas parfait. Tu veux l'arranger? Va l'arranger. Voilà, il y a le nord qui est pas bon. Et comme ça, on va comprendre. Ça nous montre les limites de la nature et ça nous montre en vérité les limites de l'homme. C'est la même chose dans la Torah. C'est des choses comme ça qui nous montrent qu'en vérité, sans les Rachamim, on peut rien comprendre. Il y a des tas de contradictions comme ça dans la Torah. Donc ça, c'est la troisième méthode. C'est donc le Binyan Av. Binyan Av, soit en se basant sur un verset, soit en se basant sur deux versets. Pour créer un modèle. Voilà, Binyan Av, on va traduire ça par modèle. Donc on a eu Xera Shava, on a traduit a fortiori. On a eu, non pardon, Kalva Chomer a fortiori. Xera Shava, corrélation, vous avez dit Comment on peut traduire Xera Shava, hein, Julien? L'équivalence?
Non, j'avais sorti un mot il y a quelques mois. Mais
on trouve un mot commun. Bon, quoi qu'il en soit. Et troisième, c'est le concept du modèle. Que la Torah peut créer un modèle qui va avoir des enfants. Ensuite, quatrième méthode avec laquelle on étudie la Torah. Miklal ou Prat? Quand la Torah nous donne une généralité qui est suivie d'un détail, comme on va donner tout de suite un exemple. Alors, dans ce cas-là, la généralité ne peut inclure que le détail. Alors, je vais donner un exemple. D'accord, on va donner un exemple. Par exemple, dans la paracha Vaïkra, début de la paracha Vaïkra, il dit la chose suivante. Il dit, Adam qui a cri de Mikem, Korban Lachem, un homme qui voudra offrir un sacrifice, de quoi il pourra l'offrir? Mina Behema, de l'animal. Est-ce qu'on l'a spécifique à l'animal? Non. De l'animal, donc c'est une généralité. Très bien. Ensuite, juste après, le verset, le même verset, hein, il continue, il dit, Mina Bakar.
Ah, ça s'applique précisément.
C'est quoi Bakar? D'accord? Bakar, c'est le gros bétail. Ou Minatson, et du menu bétail. Donc là, tu as déjà spécifié ce que tu voulais dire. Après, tu as dit de l'animal au début, c'était général. Donc c'était une généralité. Donc au début, tu as dit une généralité. Et après, tu es rentré dans un détail. Ça s'appelle Klal ou Prat. De là, on apprend quoi? On apprend que Endi Klal et la Machevi Prat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les seuls sacrifices qu'on peut offrir, c'est uniquement le gros bétail et le menu bétail. Rien d'autre. D'accord? Bien que, quand on avait dit Mina Behema de l'animal en général, bah par exemple, des animaux, ça aurait pu être aussi des animaux sauvages. Or, on aurait pu amener un animal sauvage. Non, on te dit non. Attends, on a dit des animaux, ah, c'est une généralité, ok, on peut alors les animaux sauvages. On te dit non. Mina Bakar ou Mina Sam, du gros bétail et du menu bétail. Donc, Klal ou Prat, quand on a une généralité suivie par un détail, d'accord, on peut suivre que le détail. Ah, après, elle a dit la généralité, ça va venir.
Ouais, pourquoi? On sait les demandes.
Tu vois, des questions comme ça, il y en a des tas comme ça dans la Torah. C'est-à-dire, tu dis une généralité. Après, tu dis le détail. C'est-à-dire, tu m'as rajouté un mot, tu m'as embrouillé.
C'est pour faire la seule règle.
Alors, Miklal ou Frat? Donc, quand on a Klal ou Frat, rappelez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, une généralité suivie d'un détail. Ensuite, on a Umi Prat ou Klal. Ça, c'est le cinquième principe. C'est quand on a un détail qui est suivi d'une généralité. Et là, ça voudrait me dire qu'il faut suivre la généralité. Par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, dans Hashavat Aveda, il y a une mitzvah de rendre une trouvaille. Quand on trouve quelque chose, on a une mitzvah de le rendre. Qu'est-ce qu'il dit le verset dans la paracha qui t'était, je crois. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Le verset, il dit, Vechen ta'aseh lachamoro, vechen ta'aseh lesimlato. Le verset dit, ainsi tu devras faire pour son âne, l'âne donc que tu vas trouver, et ainsi tu devras faire pour son vêtement. Donc ça, c'est une généralité ou un détail?
Détail.
L'âne. Tu dis, ainsi tu feras pour son âne. C'est un détail. Très bien. Et après, qu'est-ce qu'il dit le verset? Le même verset. Il dit Vechen ta'ase lechol avedat achira, ainsi tu feras pour toute trouvaille, pour toute perte de ton frère. Donc on a démarré par un détail ou une généralité. On a démarré par un détail, mais le même verset est conclu par une généralité. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Alors de là, qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre la généralité. D'accord? On va suivre la généralité. Alors, bon. Tu vas me poser la même question, tu dis, dans ce cas-là, pourquoi tu m'as donné le détail? C'est toujours la même question.
Pour faire la règle. Qu'est-ce que tu te dis?
Non, il y a des raisons sur ça. D'accord? Par exemple, la question qu'on a posée tout à l'heure, on a dit quand tu as une généralité suivie d'un détail. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Quand j'ai une généralité suivie d'un détail, c'est quoi le din? Je dois suivre le détail. Donc, comment ça se fait dans ce cas-là que tu m'as donné la généralité? Ça n'a rien, la généralité. C'est ta question à venir? Alors, Tosfot dans Nazir, il pose la question. Dans le traité de Nazir, il pose la question. Et il répond, il dit la chose suivante. D'accord? Il nous dit que, pourquoi la Torah a fait ça? C'est pour nous dire que dans la généralité, on doit chercher une généralité qui ressemble au détail. Parce que si on t'avait pas du tout donné de détails, alors dans ce cas-là, on te donne que la généralité, t'aurais pu aller très loin. Donc, des fois, la Torah, elle te donne un détail suivi d'une généralité. Pourquoi? Explique ce spot. C'est pour te dire que même si tu vas faire une généralité, il faut que la généralité ressemble au détail. Par exemple, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi la généralité? Vous rappelez, c'est quoi la généralité et le détail tout à l'heure?
La généralité, c'était l'âme et tout ce qui a été perdu.
Alors, c'était pour le sacrifice. On a dit quelqu'un qui voudra offrir un animal. D'accord? Mina BMA, de l'animal.
Ouais.
D'accord? Après, t'as dit Mina Bakar ou Mina Tson, du gros bétail et du menu bétail. Alors, qu'est-ce qu'on apprend?
Que c'est que du menu
du gros
bétail.
Oui, mais pourquoi?
Bestiole.
Ça veut dire, on veut te dire ici que le menu et le gros bétail, la seule raison pour laquelle on les permet, c'est parce que ils font partie des animaux. Et ne va pas toi apprendre autre chose encore du menu et du gros bétail. Ah, menu et gros bétail, ça veut dire aussi les petits et les gros oiseaux. Je te dis non. C'est pour te dire que c'est limité exactement à ça.
Et au vin et gros vin.
Bon, je peux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de choses.
Et c'est pas un procédé de zoom, tout simplement? C'est-à-dire qu'on commence à nous montrer une chose et ensuite on nous montre le détail de la chose.
C'est quoi zoom?
Que ce soit un zoom. C'est-à-dire on va zoomer. On te donne une photo et après on te dit et c'est ça dans la photo qu'il faut choisir.
Ah bah ça me paraît bizarre, excusez-moi.
Et dans les deux cas.
C'est comme si je te dis viens demain, après je te dis à midi pile.
Exactement. Ça, demain, ça y est, on t'a mis la photo que c'est demain que ça se passe, voilà. Et ensuite on te donne le détail.
Je sais pas. Moi je te dis viens demain à midi. Viens demain. Virgule. À midi pile.
Oui.
C'est quoi ça?
Eh ben, c'est une précision.
Tu t'approches avec la caméra.
Bon, dans la Torah, c'est plus précis.
T'as le calendrier ouvert devant toi.
Et le contraire, viens à midi pile. Demain toute la journée.
Voilà.
Ça veut dire que tu peux venir demain toute la journée.
Ouais.
Mais ça veut dire que
c'est attendu. Ah, tu m'as dit, bon. Demain.
Mais pourquoi je t'ai dit midi? C'est pour te dire que je veux que tu viennes demain, et pas après-demain. C'est pour ça qu'il fait que tu te fautes. Alors, on continue encore. Quelle heure il est? Alors, enfin, encore un principe, on s'arrête.
Comment, pourquoi ils se battent dans les yeshivot? C'est pour ça.
Enfin, encore un principe, on s'arrête. Klal ou frat ou klal, quand on a une généralité suivie d'un détail, suivie d'une généralité.
Ah ouais, ouais.
Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Iyatadan et la kaena prat. Tu ne peux suivre que le détail. Alors, c'est quoi cette histoire? De quoi on parle ici? Je vais donner un exemple. La Torah, elle dit à propos d'un voleur qui a volé, qui s'est fait attraper. Donc ce que le din, il doit rembourser, non seulement il doit rembourser ce qu'il a volé, mais il doit rembourser kefel, le double. C'est la punition. Très bien. Alors la Torah, à propos donc du kefel, du double que le voleur doit payer, la Torah dit la chose suivante. Elle dit, alcool vers pécha, sur toute faute qu'il aurait pu commettre. Ça veut dire peu importe ce qu'il a volé. Donc ça veut dire tout. Le même verset continue, il dit, al-shor, al-chamor, al-se, al-salma. Sur un taureau, sur un âne, d'accord, sur une brebis, d'accord, sur un vêtement. Sur ces trois choses-là, qu'est-ce qu'on te dit? Sur ces quatre choses-là, qu'est-ce qu'on te dit? Donc là, apparemment, on est déjà rentré dans le détail. T'as démarré avec une généralité. Tu m'as dit sur toute faute qu'il aurait pu commettre. Après, tu rentres dans les détails. Attendez, c'est pas fini. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Alcool aveda. D'accord? Alcool aveda sur toute perte. Bon, alors là-bas, il faut comprendre, ça veut dire sur tout vol qu'il aurait pu commettre. Alors, tu as commencé par une généralité, dans le même verset, hein, c'est le même verset. Après, tu passes à un détail, et après, tu repasses à une généralité. Alors, je fais quoi avec? T'attends quoi de moi maintenant? D'accord? Alors, on te dit comme ça. Dans ce cas-là, c'est quoi le principe? C'est Iyatadan et la Kayanapra. C'est-à-dire qu'il faut suivre la généralité, mais il faut que la généralité ressemble parfaitement au détail. J'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on te dit que le voleur devra payer le Kefel sur tout ce qu'il a volé. Sauf que, il faut que ça ressemble au détail. Qu'est-ce qu'il y avait dans le détail? C'est quoi les quatre choses qu'on avait dans le détail? On avait le taureau, l'âne, l'agneau et le vêtement. C'est quoi le point commun qu'il y a entre ces quatre choses-là? Le point commun qu'il y a entre ces quatre choses-là, c'est que c'est des choses qui valent de l'argent et que c'est des choses qui sont mobilières. C'est pas de l'immobilier, c'est du mobilier. Donc, de la même manière, le voleur devra rembourser le double seulement sur l'immobilier. D'accord? Mais sur l'immobilier, il devra pas rembourser le double. Mais il devra quand même rembourser, mais pas le double. Donc, c'est pour te dire qu'il y a la généralité, ça veut dire qu'il doit rembourser, toujours doit rembourser, mais le détail spécifique qu'on a rajouté de dire qu'il doit rembourser le double, ce détail ne s'appliquera que dans le détail, ce détail ne s'appliquera que dans un larcin qui ressemble au cas du détail. Vous voyez ce que je veux dire? Je répète? J'ai commencé par la généralité. C'est-à-dire sur toute faute, sur tout ce qu'il aurait pu voler. Après, j'ai limité. Après, j'ai fait un zoom, si vous voulez. D'accord? J'ai dit le taureau, l'âne, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le taureau, l'âne, la brebis et le vêtement. Après, je remets encore une fois une généralité.
Ah, zoom arrière.
Pourquoi j'ai fait ça? Pour te dire qu'en vérité, toujours, c'est évident que le voleur doit toujours rembourser ce qu'il a volé. Sauf que, dans quel cas la spécificité que la Torah est en train de te dire ici, qu'on doit rembourser le double, dans quel cas cette spécificité va s'appliquer? C'est seulement, c'est du transportable, c'est quelque chose qui vaut de l'argent. C'est-à-dire quelque chose qui peut s'acheter, quoi. Quelque chose qui peut s'acheter, quelque chose qui a une valeur. Si c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui n'est pas transportable, il doit rembourser, puisqu'on apprend de la généralité, mais il remboursera pas le double, puisque ça ressemble pas au détail. Ça, c'est encore une méthode avec laquelle on étudie la Torah. On s'arrête là pour aujourd'hui. On en a fait que 6 sur 13. Ça promet.
Alors, il y en a plein qui vont se contredire, là.
Non, des fois, on en a plusieurs.
Hein? Combien tu me donnes?